France Musique.
Musique et moi.
Rosemary Stanley.
Priscille Lafitte, France Musique.
La douceur nous visite. Nous ne la manipulons ni ne la possédons jamais. Il faut accepter d'entrer dans ces marées, de parcourir ces chemins creux, de se perdre pour que quelque chose d'inédit survienne. On pourrait dire que la douceur se loge dans cet espace ténu, fracturable, où ce qui arrive l'est avec votre consentement, mais sans que vous puissiez ni le comprendre ni l'appréhender, dans les frontières de votre moi ancien.
Bonjour, Rosemary Stanley.
Bonjour.
Merci d'être l'invitée de Musique et moi ce matin sur France Musique. Ce Schubert, Du bist die Ruhe, incite à faire silence, à écouter les oiseaux, à trouver le repos dit roux en allemand. Une grande douceur émane de ce lead. Et j'aurais eu tendance à programmer ce chant fin d'émission, de la même manière que vous avez placé cette plage en toute fin de votre album Schubert in Love, qui vient de paraître chez Alpha Classics. Mais les temps sont tellement durs, sont tellement rugueux, que je me suis dit qu'inscrire cette émission dans la douceur dès le départ ne pouvait que nous faire du bien. D'ailleurs, vous avez lu un extrait du livre « Puissance de la douceur » d'Anne Dufour-Mantel. C'est une sensation que vous recherchez, vous, en ce moment, Rosemary Stanley, la douceur particulièrement?
Oui, plutôt, et depuis quelques mois, effectivement. Je pense qu'on est plusieurs, et en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, j'oscille vraiment entre justement le tourment et la douceur en permanence. Et là, c'est vrai que ce petit livre m'accompagne de temps en temps, Puissance de la douceur. Je trouve que c'est très réconfortant et elle y met des pensées, justement, lorsqu'elle était analyste, mais aussi des pensées philosophiques et puis artistiques, voilà, et littéraires. Et du coup, c'est assez consolant.
La musique vous apporte de la douceur ?
Ah oui, beaucoup. Je pense que j'aurais du mal à vivre sans musique. J'ai l'impression que c'est quelque chose dans laquelle je suis née dedans, vraiment, et donc c'est difficile d'imaginer ma vie sans musique. Je m'imagine pas forcément en faire toute ma vie, mais en tout cas d'en avoir près de moi, d'écouter, d'avoir des disques, d'être entourée de musique, de musiciens, de gens qui jouent. J'aime aller voir des concerts, j'aime entendre des musiques traditionnelles. Voilà, ça, c'est très important pour moi en tout cas.
Et comment est-ce que vous trouvez la douceur dans le chant, puisque c'est vous qu'on vient d'entendre à l'instant dans ce lead de Schubert? Par où est-ce que vous passez, par quel cheminement pour trouver cet état d'esprit?
C'est assez compliqué, j'essaie de ne pas l'analyser justement. Mais je pense que j'essaie de me connecter au texte au maximum pour être le plus proche en fait d'une interprétation qui soit la plus révélatrice justement d'un texte, et en tout cas voilà, quelque chose qui me touche, avoir envie de le transmettre. Et c'est vrai que c'est difficile d'analyser la chose comme ça. Je dirais que le fait de chanter en soi est aussi une forme de méditation. En fait, il y a quelque chose déjà qui calme, qui pose. On a besoin d'être un peu ancré pour ça. Et ce qui est amusant, c'est que toutes les fois où je m'éloigne de la pratique, parce qu'il y a des moments où on n'est pas dans les concerts, où on n'a pas envie de chanter, on n'a pas forcément envie de répéter, qu'on n'est pas dans l'astreinte justement de parce que c'est une forme, pas, je dirais pas de sacerdoce, mais d'habitude quotidienne, voilà, c'est un quotidien. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je sors de là, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas et que quand j'y reviens, je me dis, ah oui, c'est vrai. Pourquoi j'ai attendu, qu'est-ce que je fais à ne pas faire ça tout le temps? Voilà. Du coup, il y a effectivement pas mal d'allers-retours comme ça, mais c'est vrai que le chant en soi déjà est une forme de consolation, ouais. Et de méditation, en fait.
De méditation, parce que vous faites le vide en vous-même pour pouvoir chanter?
Non, mais en fait, c'est comme si, c'est un processus assez compliqué, mais c'est une forme à la fois d'être présent et d'être là où on est, c'est vraiment ici et maintenant, et en même temps d'absence de soi. C'est-à-dire qu'on doit se perdre dans autre chose pour pouvoir être dans le champ, en fait. Et se laisser porter par cette chose, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, se laisser aller, se laisser porter, et voilà, en tout cas, c'est des choses que finalement je découvre au fil du temps aussi, parce que c'est une pratique. Je chante depuis que j'ai 8 ans, donc ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu des périodes beaucoup plus volontaires par rapport à ça, et puis j'ai appris aussi à lâcher en fait, et à laisser le chant me porter aussi, pas être toujours dans le vouloir faire.
Sie rinschenket, er weiß, seit Geist im Neuen.
Une voix qui repose, qui console, celle de la basse Harry Peters dans cet air de Zarathoustra, dans la flûte enchantée de Mozart. John Eliot Gardiner est à la tête des English Baroque Soloists. Cet air, Rosemary Stanley, vous fait voyager dans quel recoin de votre imaginaire ?
Alors, c'est des choses que j'ai entendues très jeune, petite, puisqu'on s'endormait avec la flûte enchantée avec mon frère. On dormait dans la même chambre, mais on écoutait en boucle des cassettes d'histoire, mais aussi la flûte enchantée. Enfin, voilà, il y avait vraiment deux cassettes de musique qui étaient en boucle. C'était la flûte enchantée et Wagner, le vaisseau fantôme. Et du coup, c'est vrai qu'on s'endormait avec cette musique. Toute la flûte enchantée n'est pas une berceuse, mais c'est vrai que cet air-là, c'est vraiment une berceuse. C'est un air de bénédiction des amants, des dieux et qui leur souhaitent, malgré tous les tourments, de marcher ensemble, en tout cas, et d'aller vers la lumière, en fait. Il y a quelque chose comme ça.
Et pour rentrer dans la nuit, c'est assez paradoxal, mais c'est beau.
Pour rentrer dans la nuit, mais c'est vrai que c'est certainement plus lumineux que Wagner en ce qui me concerne par rapport au rêve.
On va l'écouter, ce vaisseau fantôme de Wagner. Et c'est vrai que c'est étonnant de s'imaginer pouvoir s'endormir enfant avec cette ouverture-ci. Rosemary Stanley, vous nous avez parlé d'une chambre où vous dormiez avec votre frère. Vous êtes où ? À Paris ?
On est à Paris, oui.
Dans un petit appartement ?
Dans un petit appartement.
Et là, il fait noir quand vous écoutez Le Vaisseau Fantôme ?
Il fait noir et je ne sais pas pourquoi cette cassette, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très filmique, de très cinématographique. On peut imaginer des scènes avec des chevaux, enfin... En même temps, il y a parfois des moments apaisés, mais c'est vrai que je pense que moi, j'ai fait beaucoup de cauchemars enfant. Et je pense que Wagner ne m'a pas vraiment aidée à avoir des nuits complètement paisibles. Mais c'est vrai que il y a quand même quelque chose de... C'est une musique sans... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une mélodie, mais... Elle est difficilement retenable comme une chanson et du coup on peut projeter plein de choses tout le temps. Par exemple là on peut imaginer des fleurs dans une prairie. Juste avant c'était, moi j'ai un tableau, je sais plus si c'est Delacroix ou Géricault, où il y a des chevaux face à une mer qui s'ouvre. Bon, il y a des images comme ça qui arrivent et qui peuvent éveiller l'imaginaire. Et c'est ce que j'aime aussi dans la musique symphonique par exemple, c'est qu'on tout est là pour créer ou évoquer des choses qui ne sont pas forcément celles qu'ont voulu évoquer l'auteur.
Et enfin, vous faisiez des films sur les musiques.
Oui, mais par exemple, ce qui est amusant, c'est que j'ai eu beaucoup de mal. Pour moi, ça a été très difficile de voir des flûtes enchantées en opéra, que ce soit en film ou en opéra, parce que c'était très loin de ce que je m'imaginais. Moi, j'avais l'impression que la flûte se passait dans un train et que les personnages allaient d'un wagon à l'autre. En fait, voilà, c'était ça... C'était ça mon idée de la flûte. Et du coup, quand je... Voilà, je sais pas pourquoi. J'avais l'impression que chaque scène se passait dans un wagon différent et que parfois les personnages repassaient dans les wagons. Enfin voilà. C'est pour ça que ça n'avait rien à voir avec ce que c'était. Et en fait, je me disais aussi ce qui est amusant, c'est que pour moi, c'est un peu l'inverse de Mozart, en fait. C'est-à-dire qu'il est effectivement, il y a une écriture qui est pleine et qui est dans. On est dans le détail aussi. Il y a beaucoup de choses. Mais on est aussi aussi dans quelque chose d'épique et dans l'histoire, donc l'histoire de ce revenant qui revient, de ce mort, de cet esprit qui revient sur Terre pour essayer d'achever de son éternité, en fait. et qui finit par... Il y a quelque chose... c'est épique, mais il y a quelque chose de sérieux, en fait, de très sérieux. Et moi, ce que j'aime aussi chez Mozart, c'est sa malice, son humour, et finalement, ça se passe bien. Ce que je veux dire, c'est que les héros passent par des épreuves, mais ça se finit bien. Et alors que chez Wagner, ça finit quand même, quelque part, par un sacrifice. Et voilà, il y a quelque chose de très sombre, quoi.
L'ouverture du vaisseau fantôme de Richard Wagner, Mark Minkowski à la tête des musiciens du Louvre, Rosemary Stindley. Vous nous avez planté le décor de cet appartement à Paris. On a fait la rencontre furtivement avec votre frère. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos parents? Quelle voix ont vos parents?
Quelle voix VOX?
VOX.
C'est un couple franco-américain. Mon papa est américain et chanteur guitariste. Et c'est vrai qu'on a toujours... Et ma maman est française... d'origine bretonne, et c'est vrai qu'on a toujours entendu de la musique à la maison.
Donc votre père chante et votre mère ne chante pas?
Elle chante juste, elle a une voix juste, mais elle faisait plutôt de la danse. Elle faisait de la danse jeune et elle a eu un parcours elle a été très loin en fait, dans la danse. Et puis elle est devenue correctrice. Voilà.
Donc dans les mots?
Dans les mots, ouais. Dans les mots, dans la littérature et dans les journaux, ouais.
Recherche du mot juste, pendant que votre père, lui, a ce pas de côté par rapport à la langue française.
Oui.
Il vous parlait
anglais.
En anglais,
ouais,
quand vous étiez petite?
Oui, toujours.
Donc vous avez grandi dans un univers bilingue?
Oui, tout à fait.
Dans votre culture musicale, il y a aussi ce bilinguisme, en quelque sorte.
Oui.
Une culture classique qui vous a été transmise plutôt par votre père ou par votre mère? Mettait les cassettes?
Non, en fait, c'est la culture classique est plutôt transmise par ma mère. C'est vraiment quelque chose qu'elle écoutait, que son propre père, en fait, je pense, écoutait à la maison. C'était quelqu'un qui n'avait aucune culture musicale. Je veux dire, il n'avait jamais appris la musique, mais lui-même chantait petit breton dans les fermes. Parce qu'il vient du Nord Finistère et il chantait sur les tables dans les fermes. C'est quelque chose qu'il chantait en breton à une époque où on parlait encore on le parle toujours, mais il y a eu toute cette vague dans les années quand on a empêché les enfants justement de parler leur langue maternelle. Et il disait toujours, c'est marrant parce que donc il était médecin, gynécologue. Accoucheur, mais il disait toujours que s'il avait pu être chef d'orchestre, en fait, c'est ça qu'il aurait aimé faire. Voilà. Mais bon, il connaissait rien à la musique. Il mettait parfois des disques et puis il mimait le chef d'orchestre.
Voilà. Et votre père vous faisait plutôt écouter ceci.
I can settle down and be doing just fine till I hear an old freight rolling down the line. Then I hurry straight home and pack. And if I didn't go, I believe I'd blow myself. I love you, baby, but you gotta understand, when the Lord made me, he made a rambling man. Some folks might say that I'm no good, that I wouldn't settle down if I could. But when that open road starts to calling me, there's something over the hill that I gotta see. Sometimes it's hard, but you gotta understand, when the Lord made me, he made a rambling man. I love to see the towns a-passing by, and to ride these rails neath God's blue sky. Let me travel this
this land, from the mountains to the sea, 'cause that's the life I believe he meant for me. And when I'm gone and at my grave you stand, just say God's called home, you rambling man.
Rambling Man de Hank Williams.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Rosemary Stanley, l'invitée de Musique et moi ce matin sur France Musique. Votre père, Wayne Stanley, vous passez la cassette ou le disque de Hank Williams, ou est-ce qu'il l'a chanté directement sur sa guitare, cette mélodie?
Moi, j'ai découvert cette musique par lui au départ. Lui interprétant et chantant tous ses morceaux. Et le premier morceau que moi j'ai chanté était un morceau de Hank Williams qui s'appelait Jambalaya.
Est-ce que son interprétation différait beaucoup de ce qu'on vient d'entendre?
Alors lui ne chantait pas Rambling Man. Moi, j'ai découvert plus tard Rambling Man. J'ai connu surtout les morceaux un peu plus toniques de Hank Williams au départ. Parce que c'est une époque, en fait, c'est un peu les prémices du rock and roll, en fait. On n'entend pas forcément sur ce morceau, mais dès que la basse commence à accélérer et la guitare un peu à accélérer, c'est le mélange. On est dans le sud des États-Unis et il y a vraiment une mixité entre les Noirs américains et les Blancs. Et en fait, il y a vraiment une créolisation. Et tout le monde reprend, en fait, des morceaux, des versions, des airs, des rythmes, en fait. Et voilà. Et le rock'n'roll va naître de ça, en fait.
Votre père est originaire de quelle partie des États-Unis, lui?
Alors, du Midwest. Il est né en Ohio. Et puis, il a vécu en Indiana, au sud de l'Indiana, à Louisville, à la frontière avec le Kentucky.
Lui, comment a-t-il appris cette musique-là?
Alors ça, c'est un peu un mystère, je dois dire, parce que je pense que dans sa famille, il n'y avait pas forcément un goût pour cette musique-là. Moi, je pense que c'est quand il est parti à San Francisco qu'il a commencé à jouer de la guitare et à chercher ce qui lui parlait musicalement. Voilà, il devait avoir autour d'une vingtaine d'années par là. Et ensuite, il est venu en France et c'est vrai que il est devenu ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire que c'est un chanteur qui pour moi est un interprète et qui a des versions très personnelles de certains morceaux, qui a vraiment donc c'est très à la fois très authentique et très émouvant, en fait.
Est-ce qu'il laisse aussi sa voix se percher dans un saut de quinte, comme on l'entendait là à l'instant chez Hank Williams?
Non, pas trop. Parce que Hank, là, il yodole un peu. Il y a du yodole aussi dans la voix.
Vous avez appris à faire ça?
Non, moi non. Je peux pas prétendre faire du yodole du tout. Il y a des gens qui sont très spécialisés. Ça vient de la Suisse, hein. Ça vient des montagnes. Je crois des émigrés suisses qui sont arrivés aux États-Unis.
Et donc votre père non plus?
S'il le fait, mais alors pas souvent sur les morceaux, pas sur les morceaux doux. Je l'ai entendu le faire surtout sur des morceaux rapides.
Alors vous avez chanté, vous, ce Rambling Man, il se trouve, dans un album de Moriarty, Fugitive. Et dans ce même album, on vous entend en duo avec votre père, Pretty Boy Floyd.
Come gather around the children, here's a story I want to tell about Pretty Boy Floyd, the outlaw Oklahoma and well. It was in the town of Shawnee on a Saturday afternoon, with his wife beside him in a wagon. A deputy sheriff approached them in a manner
through, using vulgar broken language, and his wife she overheard. And pretty boy had a lock chain, and the deputy had a gun, and in the fight that followed, he laid that deputy down. He took to the trees and the timber, and he lived a life of shame, and every crime in Oklahoma was added to his name. He took to the trees and the timber and hid on the river shore, but the outlaw found a welcome at a many a farmer's door. There's a story of a stranger who came to beg a meal, and underneath his napkin he left $1,000 bill. It was in Oklahoma City on an early Christmas day, with a carload full of groceries and a letter that did say, "Well, you say that I'm an outlaw, you say that I'm a thief. Well, here's a Christmas dinner for your poor folks on leave. How through this world I traveled, and through this world I roam, and I've never seen an outlaw to run a family from their home. Now through this world I traveled, I've seen lots of funny men. Some will rob you with a six gun, and others a fountain pen. Come and gather round the children, here's a story I want to tell, about a pretty boy, Floyd the outlaw. Oklahoma knew him well. About pretty boy, Floyd the outlaw. Oklahoma knew him well.
Pretty Boy Floyd, composition de Woody Guthrie.
Ouais.
Que dit cette chanson, Rosemary Stanley?
Elle raconte l'histoire d'un bandit, justement, qui va être assassiné par un shérif. Mais qui raconte l'histoire justement d'un bandit qui braquait des banques pour redistribuer l'argent à des pauvres, à des gens qui étaient dans le besoin, qui avaient été chassés de leur maison justement au moment de crise économique où il y a eu des migrations, enfin d'États aux États-Unis. Parce que en fait la crise économique impliquait que justement les gens ne pouvaient plus payer leur maison et donc ils étaient chassés de leur maison. Et à un moment, il dit j'ai connu beaucoup de bandits, mais certains vous braquent avec un pistolet et d'autres avec un stylo plume.
Qui joue de la guitare dans cette version qu'on vient d'entendre? Et qui joue de l'harmonica? C'est votre père?
C'est lui, il fait tout. Ouais. Ouais.
C'est Wayne Stanley.
Ouais.
Et je me souviens de vous avoir vu, Rosemary, dans le métro parisien,
voilà,
en duo avec votre père.
Aïe.
Lui à la guitare, à l'harmonica et au chant, et vous au tambourin et au chant, si
oui,
je me souviens bien. Comment trouvez-vous que vos voix s'accordent?
Moi j'adore, c'est-à-dire que c'est une fusion, c'est quelque chose...
Là vous êtes dans le grave.
Oui, en fait c'est quelque chose que j'aime faire, en fait. Il m'a donné le goût de ça, c'est vrai que je lui dois beaucoup dans l'apprentissage de moi, de ce que j'ai fait avec lui.
Parce que enfant, vous cherchiez déjà ces deuxièmes voix?
Non, pas du tout. En fait, moi, je reproduisais. En fait, c'était une sorte de méthode traditionnelle qui s'appelle le song catching, qui est vraiment on vous chante un air et puis vous le répétez. Donc, il me chantait un couplet, puis je répétais après lui pour vérifier si j'avais bien, voilà, au niveau de la mélodie, au niveau des paroles, etc. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime faire, des harmonies, en fait. C'est cette musique, il y a ça dans la musique country ou folk ou tout ce qui propre à l'americana, il y a beaucoup d'harmonies vocales et moi j'adore faire ça et j'adore faire des harmonies par en dessous comme ça, un petit peu tapis là, qui sert en fait la voix et la mélodie, voilà.
On parlait aussi un peu plus tôt de technique du yodel. Est-ce que vous avez appris d'autres techniques vocales? Je crois qu'à un moment vous êtes passé par des cours de chant lyrique.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a amené aux portes du conservatoire?
Alors, c'était une histoire de danse, parce que moi j'ai fait de la danse classique pendant 7 ans. Et puis, quand j'avais 15 ans, je rentre avec ma mère à la Scola Cantorum à Paris pour m'inscrire à des cours de danse. Et je rentre par hasard dans la classe d'un professeur de chant qui s'appelait Gérard Quénez. Et je l'entends chanter et c'était extraordinaire. En fait, j'avais l'impression que j'avais jamais entendu ça. Parce que il était en face de moi. J'avais entendu que des choses sur cassette, en fait, où les CD n'existaient pas vraiment. Enfin, bon, en tout cas, j'avais pas de CD classique vraiment chez moi. J'avais des cassettes. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais en fait, je veux faire ça. Je veux faire ça. C'est pas la peine. La danse, on oublie. Je veux faire ça. Et donc, pendant pas mal d'années, j'ai pris des cours de chant avec lui, puis après avec d'autres professeurs.
Est-ce qu'il vous est resté quelque chose de cette technique lyrique aujourd'hui? Parce que vous avez fait table rase de cette technique-là. Qu'est-ce que vous en gardez?
Non, il y a des choses parfois que je travaille pour moi, tranquillement. C'est un plaisir, c'est une autre façon de projeter sa voix. Oui, c'est ça, une autre façon de la projeter et puis de l'appréhender aussi. J'en ai gardé effectivement des techniques respiratoires, j'ai gardé beaucoup de choses en fait qui me servent au quotidien aussi dans ma pratique quotidienne. C'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, je n'avais jamais annulé un concert. Voilà, donc j'ai appris à travailler et à chanter même quand je suis malade. Voilà, des choses comme ça qui me servent en fait, qui sont vraiment... Et puis le répertoire en fait. Ça m'a appris aussi à vocaliser parce que c'est vrai que dans la musique traditionnelle, enfin, en tout cas celle que je pratiquais avec mon père, on s'échauffait pas forcément, on y allait direct en fait. Et lui, il a jamais eu aucun problème vocal. Et moi, j'ai trouvé ça pratique et bien de pouvoir s'échauffer aussi. Enfin voilà, il y a toute une forme de, c'est une manière d'assouplir aussi et de faire des choses qu'on. Je n'irai pas chanter forcément à l'opéra, mais voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant des années. Oui. Lover, come back to me. The sky is blue, the night is cold, the moon is new and love is old. This aching heart of mine is saying, lover, where can you be? When I remember every little thing you used to do, I grow. I walk along with you. No wonder I am lonely. The sky is blue, the night is cold, the moon is new, but love is old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, lover, lover. Thank you.
come back to me.
Billie Holiday en 1958, Lover, Come Back to Me. Rosemary Stanley, vous avez beaucoup écouté cette voix de Billie Holiday?
Ouais, trop.
Trop? On peut s'en lasser?
Non. Ah non, c'est pas ça. C'est que ça... Je peux pas m'empêcher d'entendre une fêlure maintenant quand je l'entends. En fait, ça, c'est ça... J'entends... C'est vraiment assez... En fait, je suis... J'adore écouter les voix. Je suis assez fan des voix particulières. Et j'aime ça, j'aime entendre. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup, beaucoup écouté quand j'étais ado. Et aujourd'hui, j'ai du mal. Et là, c'est vrai que cette version-là, je ne la connais pas. Et c'est super parce qu'il y a quelque chose de très enjoué, de très gai. C'est presque, on pourrait presque plus l'attribuer à ce genre de choses, plutôt à Ella Fitzgerald d'ailleurs. C'est plutôt l'ambiance d'Ella Fitzgerald autour. Et donc ça fait plaisir, mais c'est vrai que j'ai du mal. Elle m'émeut trop, en fait. Il y a quelque chose de difficile pour moi maintenant à écouter. Voilà.
Est-ce que c'est parce qu'on a peut-être associé aussi votre timbre à celui de Billie Holiday?
Non. Après, c'est vrai que j'ai tellement écouté que je peut-être qu'il y a des choses qui sont passées dans ma voix. C'est très possible. Et comme tous les chanteurs imitent, je pense qu'il y a des choses qui sont passées, sûrement. Mais en tout cas,
ce serait inconscient.
Ah oui, je pense que c'est inconscient.
Est-ce que vous avez appris la technique de jazz? Billie Holiday n'est pas forcément une grande scatteuse, mais est-ce que vous avez appris le scat, l'improvisation?
Pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Mais pas du tout. C'est une bonne question parce que j'aime les standards de jazz, j'adore. Mais le scat, c'est pas mon truc. Et je suis très très admirative de voir justement les chanteuses. J'en ai vu. J'ai vu. Mais c'est pas du tout moi en fait. Parce que alors c'est pas que je peux pas inventer avec la voix. Je pense que c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression que c'est pendant très longtemps j'avais l'impression que c'était codifié, qu'il y avait une manière de le faire, et du coup j'avais pas ce langage-là. Et je suis vraiment, j'ai l'impression plus sur le texte en fait. J'ai besoin de dire quelque chose, je crois.
Quand vous composez, par exemple avec les Moriarty, c'est vous qui trouvez votre ligne mélodique?
Souvent, mais après c'est vraiment un travail de groupe. C'est un vrai groupe. C'est-à-dire que c'est un long processus de création. Et c'est un travail vraiment... c'est-à-dire que la mélodie, je ne peux sans doute pas la trouver s'il n'y a pas eu la basse avant. Souvent, il y a quand même besoin d'un support. Donc, mais c'est vrai que souvent, les mélodies chantées, c'est vrai que elles arrivent... voilà, elles m'arrivent.
Parce qu'en dehors des Moriarty, votre travail avec dans différentes esthétiques ont surtout été des reprises.
Oui.
En fait.
Oui.
Aujourd'hui, vous composez encore?
Pas avec... En ce moment, on ne travaille pas avec Moriarty. On est chacun sur des voies un peu parallèles. Eh bien non, en ce moment, je ne compose pas.
Et ça vous manque?
Je me pose la question, justement. En ce moment, puisqu'on est dans une période un peu étrange, je me demande ce qui pourrait sortir de ça, en ayant à la fois une liberté contrainte, entre guillemets, puisqu'on est un peu contraint, et en même temps une liberté imposée, quelque part, puisque, enfin, une contrainte imposée, mais en même temps que je me retrouve à être là sans concert, en fait. Voilà. Peut-être qu'il en sortira quelque chose.
De ce moment de liberté contrainte.
Voilà.
On parlait des différents répertoires là à l'instant. Je vous propose qu'on vous écoute dans une mélodie d'Anne Boleyn que vous avez enregistrée avec l'ensemble de Bruno Halstroffer dans l'album Love Aubaye. Il s'appelle Oh Death, Rock Me Asleep. Thank you. Oh Death, Rock Me Asleep, c'est un air datant de 1536. Il est signé Anne Boleyn. Rosemary Stanley est à la voix.
France Musique.
Priscille Lafitte. Musique et moi.
Rosemary Stanley, qui est l'invitée de Musique et moi ce matin. Et vous êtes accompagnée sur cet album par le théorbiste Bruno Hellstrofer. Comment s'est faite votre rencontre avec cet univers si particulier du baroque?
Alors, cette rencontre particulière, ça s'est fait il y a des années de ça, il y a une dizaine d'années de ça. On s'est rencontrés sur un spectacle avec Laurence Equilbé. Voilà. Je trouve que c'était comme ça qu'on s'était rencontrés. Et Bruno avait fait une première partie de Moriarty au Trianon en 2010, je crois.
Au théorbe seul.
Au théorbe, un solo théorbe seul. Et on trouvait que c'était, moi, je trouvais que c'était vraiment super comme première partie parce que ça changeait. Qu'on avait un public qui est, on a avec Moriarty, on a un public qui est très très à l'écoute, qui a vraiment. Voilà, qui avait cette écoute-là. Et donc, le public était debout, mais avec une grande écoute. Et voilà, et donc, il s'est prêté au jeu. On a fait une semaine au Trianon et il est venu plusieurs fois faire cette première partie. Et à la fin, nous faisions un air tous les deux, un air de cour. On faisait Ombre de mon amant. Et il se trouve qu'à l'époque, il y avait l'ancien directeur d'Alpha qui était là et qui... Julien Dubois qui nous a entendus, il dit « Oh, mais c'est fantastique, il faut absolument que vous fassiez quelque chose ensemble. » Et ça a pris des années, mais il se trouve que Bruno avait avec lui une équipe très, très familiale avec Elisabeth Geiger, Gégère, on peut dire les deux, et Martin Bauer. Et puis il y avait sur le disque aussi
Michel Godard.
Le merveilleux Michel Godard aussi, ce qui m'a permis de découvrir ce que c'était
et au serpent,
voilà, ce qui m'a permis de découvrir ce qu'était le serpent. Et voilà, et donc évidemment, j'écoutais moi-même beaucoup de musique baroque, mais je n'en faisais pas. Et c'est vrai que pour moi, ça a été l'occasion de me découvrir un peu là-dedans aussi. Et ça a été une expérience extraordinaire. Voilà, ce répertoire de morceaux à la fois, parce que c'était un mélange en fait de morceaux anglais baroque et de morceaux américains qui dataient à peu près de la fin du 19e. Et du coup, il y a eu une recherche et Elisabeth a trouvé qui est quelqu'un qui fait des recherches et qui, voilà, le répertoire s'est fait en un an, je dirais. Ça a été long, en fait. Et c'est ça qui était bien, c'est que eux, ils recherchaient beaucoup de morceaux et on essayait des choses. Et puis, il y avait des choses, soit qui marchaient pas à cause des tonalités, soit parce qu'on le sentait pas forcément, et voilà. Donc voilà, et il se trouve que dans ce disque il y avait un morceau, le morceau Love I Obey, qui est un morceau de William Lowes qui n'avait jamais été enregistré avant.
Alors la question de comment inscrire sa voix dans une tradition baroque se pose alors pour vous, j'imagine. Je vous propose qu'on écoute la voix d'Alfred Deller et qu'on en reparle juste après.
Music for our
Music for a While de Purcell, Wilhelm Keuken à la basse de viol, William Christie au clavecin et donc la voix d'Alfred Deller. Un des tout premiers chanteurs à trouver une émission de contre-ténor. Il fait figure de précurseur, de pionnier dans cette esthétique baroque. Qu'avez-vous pensé, Rosemary Stanley, de cette voix la première fois que vous l'avez entendue?
J'étais assez sidérée. Et c'était, pour le coup, quelque chose que j'ai beaucoup imité.
Consciemment.
Ah oui. Alors. Bah oui. Parce que je trouve qu'il a, il a quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'émission de la voix chez les contre-ténors est quelque chose d'un peu fantastique, quoi. De magique. Et j'aime les voix particulières. Il a vraiment cette voix, une voix particulière. J'aurais bien aimé entendre sa voix parler, en fait. Je suis pas sûre. Justement, c'est ça qui est amusant avec les contre-ténors, c'est qu'ils n'ont pas la même voix chantée. Voilà. Et que dans, chez les contre-ténors, il y a quand même un peu la, la volonté d'imiter les castrats. Enfin, on n'est pas au castrat, mais d'être dans, dans une imitation de la voix de femme aussi. Mais c'est ça que je trouve merveilleux, c'est que c'est un homme et qu'il y a cette étrangeté, en fait. Il y a quelque chose d'étrange. Et c'est ce qui en fait la beauté, quoi.
Qu'est-ce que vous avez cherché à imiter particulièrement?
Le timbre, l'agilité, le répertoire. Voilà, c'est effectivement ce que je chante dans ma salle de bain, c'est ça, en fait. Voilà. C'est en plus une salle de bain. À l'époque, quand j'ai découvert, j'avais, je sais pas, 19-20 ans. C'était une toute petite salle de bain qui résonnait beaucoup. Du coup, j'avais l'impression voilà, que j'y arrivais. Que c'était... Non, c'est vrai que c'est un sacré modèle, en fait.
Je vous propose d'écouter ce que William Christie dit de la voix d'Alfred Deller. C'est une archive de 2008 dans l'émission Les greniers de la mémoire de Karine Le Bail sur France Musique.
On a beaucoup appris chez ce monsieur, surtout sur le plan texte. Ses connaissances, cette manière qu'il avait justement déclamer un texte en anglais est absolument remarquable, remarquable. C'est bien évident que sa façon de déclamer était plus importante, peut-être, que sa façon de chanter. Parce que la voix était peut-être moins évoluée que sa déclamation. Il était tout à fait profondément comédien, à mon avis. Même pendant cet enregistrement, dans un petit coin du studio, en train de regarder ses partitions, au moment... Il fallait chanter, il s'est mis debout, il a laissé sa partition sur la chaise et il a chanté comme s'il se trouvait devant un public, sans partition. Et j'avais l'impression que nous, les deux continuistes, on faisait partie de son public, en quelque sorte. C'était curieux comme sensation. Il aimait beaucoup la communication, il était profondément comédien.
Qu'est-ce que vous pensez de ces propos de William Christie sur Alfred Deller?
Je trouve ça très drôle parce que, en fait, un des exercices les plus difficiles, évidemment, c'est l'enregistrement et le studio. Et d'arriver justement à transcender ça en transformant justement les musiciens qui sont autour de vous en public et de le faire pour eux. Et je pense que ça aide à porter la musique, quoi. Voilà.
Rosemary Stanley, est-ce que l'accompagnement par le clavecin et la basse de viol, comme on vient de l'entendre chez Alfred Deller, porte la voix particulièrement? Est-ce que vous, d'avoir été accompagné par différents instrumentistes, vous vous y retrouvez dans l'accompagnement baroque?
Oui, complètement. C'est vrai que là, en réécoutant le clavecin et la viole, il y a quelque chose de... En fait, ce que j'aimais... Moi, j'aime les basses, en fait. J'aime les basses. Et quoi qu'il arrive, je pense que... C'est pas un instrument que je pourrais jouer, mais je n'imagine pas la musique sans basse, en fait. C'est très difficile. Et du coup, il y a, dans la musique baroque, c'est toujours présent. Il y a ça. Et ça donne à la fois une rondeur, une base. C'est connecté à la terre, mais ça vous connecte à la terre et en même temps, ça vous connecte à autre chose. Voilà. Et ça permet à la voix, justement, de s'élever.
Rosemary Stanley, une des premières fois que vous entendez cette basse de viol, c'était à quelle occasion ? C'était...
Eh bien, c'est au moment de la sortie du film, je crois, ou juste après, à sa première diffusion.
Peut-être. Tous les matins du monde.
Tous les matins du monde.
Dans la Corneau.
Oui.
Avec Jordi Savall.
Avec Jordi Savall. Et je découvre en fait ce répertoire, toute cette musique, cette époque. Je découvre Lully, que je connaissais de nom parce qu'on avait une cassette sur la vie de Rameau. Et du coup, je découvre le personnage de Lully. J'ai beaucoup de mal à revoir le film, en fait. Je trouve que c'est un film qui est très dur. Ça me tire des larmes. Enfin, voilà, je pleure pour différentes raisons aussi. Pour Guillaume Depardieu, pour plein de choses, en fait. Et je trouve que c'est un film très, très triste, en fait. Mais il se trouve que cette musique est extraordinaire, en fait. C'est extraordinaire. Et je crois que j'aurais rêvé être dans ce répertoire-là. Voilà. Et c'est aussi un moment, je pense que la rencontre que je racontais un peu plus tôt avec Bruno Alstroffer, elle s'est faite là aussi parce que je pense qu'on rêvait l'un l'autre du répertoire un peu. Lui, je pense qu'il aimait le rock'n'roll et moi j'aimais la musique baroque et voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur Love IOB aussi.
Voici les pleurs de Sainte-Colombe, Jordi Savall à la basse de viol. Rosemary Stanley, vous associez des émotions particulières à ce morceau ?
Non, mais en fait, déjà, je crois que ce qui m'attire aussi dans cet instrument, qui est la viole de gambe, c'est qu'il y a quelque chose qui est très proche de la voix. En fait, c'est une voix. C'est plusieurs voix, même. C'est plusieurs voix. Et c'est ça qui est tellement étrange dans cet instrument. Et ce qui est incroyable dans ces enregistrements aussi, moi j'aime de la musique acoustique et donc vraiment j'ai du mal à imaginer de plus voir de musique live. Voilà, c'est pour moi, j'en ai besoin en fait. J'en ai besoin pour moi de chanter avec d'autres personnes, mais aussi d'en voir, de me nourrir. Et j'ai besoin d'entendre et d'être proche. Et là, ce qui est incroyable dans ces enregistrements-là, et souvent dans la musique baroque, c'est qu'on entend respirer le musicien. Donc on est avec eux. En fait, j'ai l'impression d'être dedans en fait, d'être avec eux, qui sont à côté de moi et qui le font juste pour moi. Et voilà, on entend leur souffle, on entend la respiration, quelque chose d'émouvant et d'envoûtant en même temps. En même temps, on sent que ce sont des pleurs, mais il y a quelque chose qui parle de la mort et en même temps qui nous guérit en même temps. Voilà, je sais pas.
Vous qui venez du folk et de la country, vous retrouvez de cette esthétique-là dans le baroque?
Non, je dirais pas que c'est la même esthétique, c'est d'autres tons, c'est d'autres couleurs. Cela dit, quand j'entends des doubles cordes, c'est-à-dire que ce soit sur un violon ou sur un alto ou sur une viole de gambe ou sur un violoncelle, je parle pas forcément d'un accord, mais de double corde jouée en harmonie. En fait, ça me fait toujours ça me pique, mais de manière, c'est presque physique en fait. Il y a quelque chose de, parce que ça fait référence effectivement au son du violon de la country. Et voilà. Enfin, moi, c'est ça. C'était ça ma référence au départ. Donc, mais du coup, ça me fait vibrer aussi.
Dans Schubert aussi, vous retrouvez ces émotions-là, puisqu'on parlait de Schubert au tout début de cette émission et. Vous avez demandé est-ce qu'on écoute un extrait du Voyage d'hiver de Schubert. Oui. Et j'ai l'impression que vous avez refait cette boucle-là du lien avec la folk.
Alors, tout à fait. tout à fait. Je ne dis pas que j'ai refait le lien. Ce serait très prétentieux de l'affirmer. Ce n'est pas ça. C'est que Schubert, je le rencontre quand j'ai 12 ans. Avec le Roi des Aulnes. Et c'est vrai qu'il ne m'a pas quittée depuis. C'est quelque chose qui me hante encore. Et je ne peux pas écouter le Voyage d'hiver sans redécouvrir des choses, en fait, à chaque fois que je l'entends. Et des choses qui me parlent. Il y a des choses qui peuvent sembler illustratives, mais en fait, non, c'est plus puissant que ça. Mais c'est qu'avec le piano, par moment, on entend justement dans cet accompagnement qui, je parle du Voyage d'hiver, hein, qui est juste piano voix, mais le piano est quand même un orchestre. Enfin, ce n'est pas un orchestre, mais je trouve que c'est tellement bien écrit que ça pourrait être symphonique. On voit que par exemple quand Zender l'arrange. Ça se prête complètement à être symphonique. Et en même temps, c'est totalement intimiste. Et en même temps, on entend les chiens qui aboient, on entend le vent, on entend les feuilles des arbres qui frémissent. On entend tout ça, en fait. Et c'est ça que je trouve complètement extraordinaire et magique, en fait.
Vous avez demandé à ce qu'on écoute particulièrement l'interprétation d'un ténor mexicain, José Francisco Araiza.
Oui.
Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans ce timbre ?
Ben en fait, j'ai écouté tellement de versions du Voyage d'hiver, par Mathias Goerne, Fischer Dieskau, beaucoup de chanteurs de référence. Et puis j'ai trouvé récemment des choses qui me parlaient par rapport à une autre manière de le faire. Je pense en particulier à Jan Bosrich, par exemple, aussi. Qui ont une manière de le faire qui est moins opératique, entre guillemets, moins chantée de manière projetée, mais plus intimiste, plus proche, justement, du... comment dire, de la... du sentiment exprimé de manière extrêmement simple et pure, en fait. Et du coup, je trouve que ça s'ajuste très bien avec ce répertoire-là, parce que je crois que c'est un répertoire qui est fait aussi pour être... qui pourrait presque être dit, en fait. Voilà.
Le ténor mexicain José Francisco Arreaza, accompagné du pianiste Jean Lemaire, dans Irrlicht, une des étapes de ce voyage d'hiver de Schubert. Rosemary Stanley, est-ce que vous pensez avoir gardé du lyrique, une forme de legato, de lien entre les notes, une conduite de la phrase?
Ah oui, je pense, un petit peu.
Est-ce que ça vous arrive de chanter sans micro?
Ah oui, oui, bien sûr. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Moi, je suis habituée à chanter sans micro. Sans micro, sans retour, bien sûr. Ouais.
Et vous projetez différemment dans ces moments-là?
Oui, oui, oui. Après, ça dépend de ce qu'il y a autour. Ça dépend du public qu'il y a autour, de comment la salle résonne et comment elle est grande. Voilà. Il y a toujours un placement à trouver en fonction de la réverbération du son, ouais.
On va vous entendre dans une mélodie de Fauré que vous avez enregistrée dernièrement avec la violoncelliste Dom La Nena. On parlait un tout petit peu plus tôt de la basse de viol comme partenaire idéal de la voix. Le violoncelle aussi tient cette fonction-là?
Oui, alors le violoncelle, bah je... En tout cas, c'est une rencontre qui s'est... Ça fait bientôt 8 ans qu'on travaille ensemble et c'est vrai que c'est pour moi une découverte d'une autre voix, puisqu'il s'agit justement, le violoncelle n'est pas forcément un instrument accompagnateur au départ, c'est plutôt un instrument soliste. Et donc c'était une espèce de... On avait envie de s'essayer à ça, justement. Elle, c'est quelque chose qu'elle fait par ailleurs. Elle s'accompagne beaucoup au violoncelle et elle se boucle beaucoup.
Et elle chante aussi.
Et elle chante aussi, donc ça fait 3 voix, en fait.
Vous, on vous a entendu chanter en allemand au tout début de cette émission, dans Schubert. Vous avez entendu chanter en anglais. On va à présent vous entendre en français. Quelle différence vous faites dans votre façon d'aborder ces différentes langues? Comment travailler la prosodie? Comment travailler la projection de la langue?
Alors, je trouve que la voix n'est pas la même dans toutes les langues. L'ouverture n'est pas la même dans toutes les langues. Il se trouve qu'en français, moi, j'ai retardé vraiment très longtemps. J'ai pas voulu chanter en français. Ma langue musicale, c'était l'anglais. Ma première langue musicale, c'est l'anglais. Et du coup, j'ai mis du temps avant de... C'est par le créole réunionnais que je suis arrivée au français.
Ah
bizarrement.
Bon,
oui. Voilà, oui, c'est ça qui m'a... Parce qu'il y avait des... C'était pas vraiment du français, et puis le créole, on a l'impression de comprendre ce qu'on entend, mais en fait, c'est très imagé, c'est très poétique, et du coup, ce n'était pas vraiment du français non plus, mais il y avait des mots français dedans.
Quand est-ce que vous avez chanté en créole?
Il se trouve que j'ai chanté avec Christine Salem, qui est une grande chanteuse réunionnaise. J'ai découvert, en fait, une des voix que j'aime beaucoup et qui est extraordinaire, c'est Daniel Warreau, que j'ai rencontré, découvert il y a plus d'une dizaine d'années. Et il se trouve qu'à cette époque-là, j'ai rencontré une chanteuse aussi française, Marjolaine Carlin, avec qui nous avons un groupe de reprises du chanteur poète Alain Peters. Voilà. Donc, bref. En tout cas, du coup, j'ai mis beaucoup de temps avant de chanter en français parce que je trouve qu'en France, il y a une difficulté à chanter en français. Je trouve que le français est rarement fait pour être chanté. Je trouve qu'à l'opéra, c'est difficile. Je trouve que les morceaux en français, je trouve que une personne qui est extraordinaire en français, c'est Sabine de Vielle. Je trouve que sa prononciation est extraordinaire. On l'entend, mais enfin, on comprend tout. C'est bon, en plus de sa voix, mais je veux dire, pendant longtemps, c'est quelque chose qui me gênait à l'opéra, c'est que je comprends pas le texte. Donc, la musique m'atteint, et ma première émotion est musicale, mais le texte, voilà. Et du coup, voilà, finalement, je m'y suis quand même mise.
Voici donc Les Berceaux de Gabriel Fauré. Avec quel texte? Quel texte avez-vous chanté?
Eh bien, c'est le texte de Sully Prudhomme, mais un tout petit peu transformé.
Le long du quai, les grands vaisseaux, que la houle incline en silence, ne prennent main de
Les berceaux de Gabriel Fauré, qui figure sur votre album Rosemary Stanley, votre album avec la violoncelliste Dom La Nena, album de votre groupe Birds on a Wire. Quand est-ce qu'on pourra vous entendre sur scène prochainement? Tout est annulé pour vous?
Alors, tout est annulé avec Schubert and Love au mois de novembre. Décembre, on espère, mais bon, on pense quand même qu'on a un Olympia avec Birds on a Wire le 19 janvier.
Voilà. On croise les doigts très fort pour vous.
Oui, nous aussi.
Merci beaucoup à Jean-Louis Deloncle à la technique ce matin. Marie Grou à la réalisation. Marie Ferdinand pour la préparation et la mise en ligne. Passez un très beau dimanche sur France Musique. Nous avons parlé un peu de musique américaine avec mon invité Rosemary Stanley ce matin. Et on va continuer de voyager outre-Atlantique cet après-midi sur France Musique, notamment avec Marina Chiche. Have a good day. Bon dimanche.
Have a good day.
À réécouter sur francemusique.fr.